Cet entretien a été réalisé avec une militante du collectif anticarcéral de Bruxelles, La Claque. Avec elle, on a parlé de la maxi-prison qui est en train d'être construite dans le quartier d'Arun à Bruxelles. Cette maxi-prison s'étend sur 17 hectares et a une capacité de 1190 places. Elle a été pensée selon le modèle états-unien des prisons de très haute sécurité, nommée Supermax. La population a été informée de cela durant l'année 2010. Assez vite, une opposition s'est constituée contre la construction de cette maxi-prison. Elle s'est formée et sur le plan juridique et concrètement sur le terrain avec la constitution d'une ZAD en 2014. Et on démarre cette interview avec une description du terrain avant le début des travaux.
Mais du coup, moi, la première fois que j'ai été, j'étais ado et il y avait déjà des occupations. Et du coup, c'était un énorme, ce qu'on appellerait terrain vague. Mais c'est une énorme friche, il y avait une forêt, il y avait plein de plantes qui poussaient et il y avait des yourtes, des machins, des habitations. Un dôme avec des concerts, machin. Mais là, j'étais super, super jeune. Et ouais, c'était vraiment hyper vert, plein de plantes, plein de gens.
C'est cool. Mais là, du coup, c'était déjà occupé ?
Ouais, c'était déjà occupé. Okay.
C'était ouais. Genre la première ZAD ?
Je sais pas si c'était la première ou la deuxième, mais je pense que c'était la première. Il y a eu pas mal d'occupations et d'expulsions qui sont suivies, quoi.
Ok.
Et c'était aussi un endroit de Bruxelles où j'avais jamais été avant d'aller à cet endroit pour ça, quoi.
Ok. Et du coup, toi, quand tu y étais, c'était comment ?
Quand moi, j'y vivais ?
Ouais.
Ben là, c'était genre... Enfin, c'était la dernière occupation, quoi. Donc, il y a eu plein d'expulsions, réoccupations, machin. Et quand je suis arrivée, il y avait... Le mouvement n'était pas fort, quoi. Et... En gros, je vivais avec trois clodos de l'âge de mes parents et des mecs. Et donc, moi, j'étais une petite jeunette. C'était un peu bizarre. J'ai débarqué avec ma caravane, on l'a installée. Et puis, je me suis dit, OK, je vais essayer de m'intégrer au mouvement, voir ce qui se passe, essayer de comprendre un peu. Mais les gens qui y vivaient n'étaient pas spécialement porteurs d'un mouvement anticarcéral ou contre la maxi-prison et porteurs d'énergie pour lutter contre, quoi. Après, il y avait les habitants de Arun qui ne vivaient pas sur la zone, qui venaient quand même souvent, et d'autres militants et militantes qui venaient quand même souvent aussi pour faire des réus et tout. Et c'était cool, mais c'est clair que le mouvement n'était pas fort. Et je pense que c'est... En fait, le fait d'avoir une ZAD qui se fait expulser à plein de moments, ça a été des grosses déceptions pour les habitants notamment et pour des militants aussi. Et que... Ouais, ça a été hyper chaud. Il y en a plein qui nous disent, en fait, on était tristes, on n'en pouvait plus de mettre de l'énergie là-dedans, alors que, enfin, c'était trop décevant, quoi.
Ok.
Et il y a, en fait, moi, quand je suis arrivée, donc, le terrain même où la prison allait se construire était inoccupé, sauf par un peu des vestiges de cabanes et des nouvelles cabanes un peu en construction. Et donc, il y avait quelques personnes qui dormaient là et tout, mais qui ne vivaient pas à plein temps. Et moi, quand je suis arrivée, je me suis dit, où je mets ma caravane? Et des gens m'ont dit, bah, en fait, si... S'il y a une expulsion, tu seras solo et tu prendras tout dans la gueule, quoi. Et les autres, pareil, il y avait des sans-papes et tout, donc ils étaient évidemment pas chauds de mettre leur carlo là et de se faire arrêter après à trois en mode grosse victime. Ça aurait pu être pas chouette, quoi.
Okay.
Donc on était sur le côté et on essayait de continuer à faire des actions et à faire investir le lieu, à faire des actions sur le lieu pour que les gens prennent possession de ce lieu et qu'ils veuillent habiter là et qu'il y ait plus de monde qui puisse s'investir.
Ok. Mais du coup, le lieu même... où la prison, elle est construite, elle est, enfin, c'est délimité comment? Genre, il y a des barrières qui l'entourent.
Nous, on savait plus ou moins. Il y a plus. En fait, c'est assez entouré. T'as un pont, t'as le train qui passe, t'as une route de l'autre côté. Enfin, tu vois, c'est vraiment un terrain naturel entouré par des routes et des trains et des avions. Sonorement, c'est hyper chaud, quoi, de vivre là aussi. Je pense qu'il y a des gens qui supportent pas ça parce que t'entends les avions, le train, les voitures. Ça, c'était vraiment fort, genre en réunion quand il y avait un avion qui passait, on devait se taire, quoi, sinon on s'entendait pas.
Ok, ouais, ouais.
Il y en avait beaucoup.
Yes. Du coup, pour toi, elle a joué quoi comme rôle, cette ZAD, dans ce combat-là contre la construction de cette prison?
Ben, je pense que ça a amené plein de gens hyper différents, quoi. et que ça, ça a été cool et que ça a amené les gens à pouvoir exprimer l'important, les gens du quartier à pouvoir exprimer l'importance qu'ils avaient pour cet endroit. Et ça a aussi amené toute la lutte environnementale autour de la run. Donc la maxi-prison, elle détruisait des hectares de poumons, des derniers poumons verts du nord de Bruxelles, donc hyper important, des espèces protégées, un sentier protégé aussi. Donc il y avait une lutte de terrain et une lutte écologique autour de ça. Et c'est comme si, enfin, il y a plein de moments où elle a été fusionnée avec la lutte contre la prison en général et la lutte anticarcérale. Et il y a aussi des moments où ça a créé des gros conflits entre les strictement écolos et strictement anticarcérales, quoi.
Bah ouais, ça, je voulais bien que tu développes un peu du coup sur cette question de, enfin, la jonction ou enfin des conflits qu'il peut y avoir entre ces deux luttes, genre vraiment ouais, la lutte écolo liée au fait que, comme tu dis, le terrain va être détruit et que c'est un terrain avec des arbres et tout, et la lutte anticarcérale, des gens qui viennent vraiment contre cette prison, quoi. Peu importe où elle sera. Ouais.
Mais donc là, par rapport à ce que je connais, moi, et ce que j'ai vécu, moi, c'est, je pense qu'il y a beaucoup qui s'est joué avant que moi j'arrive sur ce terrain et dans cette lutte. Mais donc, il y avait clairement des oppositions, quoi. Et en fait, de ce que moi j'ai découvert aussi par ma manière d'être impliquée, c'est que. En fait, la lutte écolo, elle occulte la lutte anticarcérale. Et pour prendre un exemple, à un moment, on a fait un blocage et on se demandait qu'est-ce qu'on mettait dans le communiqué de presse. Est-ce qu'on met militants anticarcéraux alors qu'il y a aussi des écolos qui en ont rien à foutre, machin. Enfin, comment on se définit? On a décidé de se définir juste comme militants et les journalistes ont repris notre communiqué de presse en écrivant militants écologistes. Genre, on était juste là pour ça. Et donc ça c'était assez violent et on se rendait compte à quel point en fait du fossé entre une lutte écolo qui devient un peu sosdem, oui tout le monde est écolo, oui c'est bien, oui on peut défendre ça par des voies légales parce qu'il faut protéger telle orchidée et que donc il faut absolument faire tel recours en justice machin, qui sont des voies qui sont très dures à faire valoir dans l'anticarcéral, enfin des manières de lutter, donc c'est super chaud quoi. Et cette manière d'occulter la lutte anticarcérale par le truc écolo, elle a été hyper présente et elle a vraiment divisé des groupes.
Ouais, et elle arrangeait bien au final le pouvoir d'une certaine manière.
Ouais, à fond. Oui, parce qu'ils peuvent dire oui, mais on déplace les orchidées et ils les mettent dans un petit carré d'herbe 10 minutes plus loin. Enfin, un petit truc où elles vont crever direct, mais bon, voilà, ça marche en fait. Mais c'est clair que genre, la lutte écolo, elle a ralenti à fond le processus parce que. Et les attaques juridiques de notre part. Enfin, de la part des militants et militantes, ça a joué, ça a ralenti, ça a permis des occupations, ça a ramené des gens dans l'occupation, ça a ramené des militants vénères aussi qui voulaient autre chose. Enfin, elle n'a pas été que portée par les politicards.
Ouais. Et du coup, par rapport à ce truc de. Parce qu'il y a vraiment du coup la lutte qui s'est vraiment faite aussi sur un plan juridique. Enfin, il y a eu des recours. Enfin, là, j'ai noté un recours lié au fait qu'il y a des sentiers de randonnée, c'est ça, qui passaient sur la zone de la prison. Il y avait un recours lié au permis d'urbanisme, un autre au permis d'environnement. Ça.
En fait, oui, il y avait plein de trucs. Quoi. Il y avait ce sentier qui était protégé et donc voilà, ils l'ont dévié. Enfin, il fait le contour de la prison et c'est un vieux sentier macadamé maintenant et voilà, ça, enfin, ok quoi. Et en fait, on présupposait l'existence d'une source qui s'appelle le Kelbeek. En fait, Beek en néerlandais ça veut dire ruisseau, donc que ce soit un endroit qui s'appelle le Kelbeek, comme tout Bruxelles est construit sur des marécages et des ruisseaux, c'est assez cohérent. Donc ça, on a pu jouer là-dessus aussi. En fait, en gros, le dernier recours qu'il y a eu, c'était par rapport au permis d'urbanisme et d'environnement pour les suspendre, quoi. Pour dire il faut les suspendre ou les annuler. Et ça a complètement foiré. Et leur argument, en fait, donc, au constructeur de la prison, c'était pour le bien-être des détenus. Donc, ça, c'était un des trucs les plus scandaleux par rapport à ça. C'était qu'eux disaient. C'est pour le bien-être des détenus qu'il faut construire une nouvelle prison. Vous avez vu la surpopulation dans les prisons vétustes de Saint-Gilles et de Forêt. En effet, les prisons de Saint-Gilles et de Forêt, c'est des toutes vieilles prisons. Il y a des trous partout, des rats partout, c'est dégueulasse. Enfin, c'est à chier, quoi. Comme toutes les prisons, enfin, comme la prison neuve qu'ils veulent construire. Voilà. Mais donc, eux faisaient valoir cet argument-là. qui était une extrême urgence parce que, en fait, l'État belge, il s'est fait condamner plusieurs fois pour conditions de détention inhumaines, machin, par la Cour, je sais pas quoi, les droits humains, je suppose. Et donc, ouais, c'est comme si ils retournaient l'argumentaire de, en fait, vos prisons sont hachées, ah, mais il faut en construire des nouvelles, ouais. Et que ça a plié ce truc-là. Donc, hyper dégoûtant. Et il y avait un gros mépris par rapport au terrain du Québec, où il y avait ce ruisseau que nous, on voyait, et où les avocats disaient... ah oui, mais cette flaque dont vous parlez, machin et tout, vous qui allez mettre vos tentes et planter des salades. Vraiment, beaucoup de mépris de leur part et aucune reconnaissance de l'existence de cette source. Et c'est ouf de voir qu'à ces moments-là, en effet, les arguments écologiques, ils sont bafoués à mort et qu'on peut les nier alors que c'est brandi par une grande part de la société maintenant.
Ah ouais. Mais du coup... pour toi, c'était utile. Enfin, c'est utile quand même de faire toutes ces procédures juridiques et tout pour combattre la construction de cette prison.
Ouais. Enfin, ça dépend quoi. Mais en tout cas, ça a ralenti. Ça, c'est clair. Ce que je trouve de cool là-dedans, c'est que. Tu fais des procédures juridiques, à un moment tu te rends compte que ça sert à rien et qu'il faut faire autre chose. Donc moi ça m'a permis ça, de me rendre compte que jamais je vais essayer, tu vois, c'est moi. Et ça je pense que ça l'a fait pour plusieurs personnes aussi, mais je pense aussi que ça a détruit des énergies, que ça a été super lourd, super coûteux, super en argent et en énergie et en temps.
Ouais, ok. Ouais, peut-être dernière question sur vraiment la lutte en elle-même. Est-ce que tu peux me dire deux mots sur de ce que tu as vu de la stratégie du gouvernement pour arriver à faire accepter aux gens du quartier et même à la population bruxelloise la construction de cette prison?
Ouais, en gros, il y avait beaucoup d'habitants qui avaient beaucoup d'inquiétudes par rapport à leur quartier. Et je pense que ça, c'est un truc qui a aussi fort joué avec la lutte de terrain. Enfin... du coup lié à l'écologie et tout, mais qu'en fait les gens du quartier sont attachés au terrain et ont pu vivre cet attachement quoi et lutter pour ça. Mais il y avait aussi toutes les inquiétudes liées à leur propre baraque, parce qu'il y a déjà eu, en fait Arun c'est un peu la poubelle de Bruxelles, on y met des dépôts de machins, des grandes centrales de je sais pas quoi, enfin on y met plein de trucs et une maxi prison avec tous les détenus. Et je pense qu'il y en avait plein qui au début étaient là, ah ben non, pas une prison chez nous, pas encore un truc de merde chez nous, avec des grands méchants chez nous, comme t'entends souvent sur les terrains où se construisent les prisons, mais enfin, des criminels, ils vont venir me voler chez moi, t'es là, mais non, ils sont enfermés, ouais. et que ça a basculé, enfin, en tout cas, la lutte a pu permettre un basculement, mais en tout cas, les argumentaires des politiques, c'était... c'est hyper important contre la surpopulation, ça va vous apporter plus de transport puisqu'il faudra transporter tout le personnel et les proches des détenus, et que Arun c'est en effet un endroit vraiment en marge, hyper desservi, personne connaît machin, et donc ça va donner du travail, enfin il y a toujours ça qui revient, le travail, les transports et la surpopulation carcérale qu'il faut réduire et faire des prisons plus humaines quoi. Ils arrivent hyper bien à véhiculer ce message qu'une nouvelle prison c'est plus humain qu'une prison actuelle.
Là la prison qui est dans les plans, qui va être construite, du coup je vais citer tous les trucs qu'il y a dedans parce que c'est assez hallucinant. Alors il y a deux maisons d'arrêt pour hommes de 600 places au total, une maison de peine pour hommes de 200 et quelques places, une entité fermée pour femmes de 100 places, une entité ouverte pour femmes de 60 places et une autre pour jeunes de 30 places, un centre psychiatrique de 140 places et, ça je ne sais pas ce que c'est, une entité incluant la détention limitée. Et du coup en gros ça fait 1200 places quoi environ.
Ouais c'est 1190.
Déjà juste, tu sais où ils en sont à peu près les travaux là, la construction.
Ils avancent vite quoi. C'est chantier hyper rapide, blindé de grues, blindé de gens. c'est un truc de ouf. Enfin, vraiment, moi, j'ai jamais vu un chantier à Bruxelles qui avançait aussi vite, quoi. En général, c'est toujours un peu lent, machin, et là, ça trace, quoi. Après, ça a été ralenti. Je sais plus quand elle devait être construite normalement, s'il n'y avait pas eu de la lutte et tout, mais ça a été ralenti. Mais là, normalement, ils prévoient la construction pour 2022. Okay. Et ils ont encore accéléré l'année passée. Ils ont envoyé un mail. En fait, ouais, ça, je sais pas. Enfin, je vais raconter, c'est un peu scandaleux. Donc, quand on a fait le dernier recours possible, donc celui dont j'ai parlé tout à l'heure par rapport au permis d'urbanisme et d'environnement, il y a donc dans ce genre de, dans ce type de recours là, tu renvoies ton dossier et il y a une auditrice qui doit rendre un avis pour ou contre l'annulation. Et elle a rendu un avis pas public du coup, mais pour annuler. Enfin, genre, elle était d'accord avec les arguments pour annuler et suspendre les permis. Et à ce moment-là où nous on a appris l'existence de cet avis en soum-soum, quoi. Et eh ben les constructeurs ont envoyé un mail aux habitants de Haren en disant voilà, joyeux Noël, on va avancer le chantier, on avance au lieu d'avril, on va commencer en janvier et tout, parce que on est prêt plutôt que prévu, genre en fait en effet, quand t'as déjà une chape en béton qui est coulée et que tu dis oui mais il y a une source en dessous, ben oui, le droit il fait mais nique-toi, on a déjà construit notre tôle. Et donc ça a été un des gros trucs de l'enfer qu'ils ont fait et qui ont fait qui a parlé sur le fait qu'ils doivent se presser dans le chantier, donc ça avance pas mal. Là il y a déjà les murs et tout machin, tu vois déjà les fenêtres, je sais pas si elles ont été posées, mais tu vois déjà les encadrements de fenêtres machin, et c'est énorme.
Du coup là ça s'appelle la maxi prison, en fait maxi prison J'ai lu que c'était en fait la dénomination pour parler des prisons qui sont l'équivalent aux États-Unis des prisons supermax. Enfin, tu sais, toi, qu'est-ce que ça signifie exactement, maxi-prison ?
Bah, de ce que j'ai entendu, en effet, c'est un peu sur le modèle américain et tout automatisé, machin, bazar. Enfin, et que ça vient des States, quoi. Je sais pas énormément. Enfin, moi, je suis pas calée en architecture de tôle, mais. Mais si vous voulez voir, il y a Luc Vervat qui écrit des trucs cool là-dessus.
Ok.
Et ouais, c'est vraiment le truc tout automatisé, peu de contact avec les gardiens. Et ça, je pense que ça a été aussi un argument, réduire le travail des matons.
Ouais.
Ils ont peur des grèves, quoi, je pense.
Ouais. Et la prison, elle est construite du coup avec une entreprise privée qui s'appelle Cafasso. Enfin, c'est même un regroupement d'entreprises. Enfin, il y a vraiment plein d'entreprises dedans. Pareil, je ne sais pas trop si tu vas pouvoir me répondre, mais est-ce que tu pourrais me dire, comment il y a moyen de gagner de la thune en tant qu'entreprise quand tu vas en prison, quoi. Enfin, quel moment ça peut devenir un business rentable d'avoir une entreprise qui fait des bails en prison?
Ben en gros, du coup, là, c'est un partenariat public-privé, aussi appelé PPP. Et c'est un truc où, genre, même en France, même Macron, il a dit « Non, c'est pas rentable, on fait plus ça, quoi. » Et donc là, c'est donc Cafasso, c'est cette espèce de consortium d'entreprises hyper obscures qui, on sait pas trop d'où il sort. On a l'impression qu'il s'est vraiment créé pour construire cette prison, qu'il y a des investissements hyper chelous, qui sortent un peu de nulle part, bizarre, quoi. Et en gros, eux, s'ils construisent la prison, ils gèrent la maintenance de la prison aussi. Et donc, un truc où, en gros, donc, pour expliquer comment ça fonctionne, l'État, il paye pour la construction de la prison et il la loue pendant 25 ans. Et puis après, la prison est à lui. Donc, il paye Cafasso pendant 25 ans, qui va donc construire la prison et puis qui va gérer la bouffe, les travaux, les machins bazar. Et du coup, c'est aussi un truc bizarre où ça fait que l'entreprise, comme pour elle, c'est rentable que la prison soit complète et remplie, ben, elle va faire en sorte qu'elle soit remplie. Et donc, en fait, ça va... Enfin, parce qu'on dit tout le temps qu'elle va remplacer les prisons de Forêt et de Saint-Gilles, mais enfin, d'office, elle sera remplie hyper vite. Et si ça se trouve, on va garder les prisons de Forêt et Saint-Gilles parce que cette prison-là, elle sera remplie direct. Il faut qu'elle soit remplie, quoi. Mais donc, eux, ils peuvent faire plein de bénéfices là-dessus. Effectivement, ils se font blinder de thunes, quoi.
Et Et juste sur le fait que si elle est construite, elle va être remplie. Ça, c'est vraiment un truc qui est prouvé. Enfin, que quand tu construis des nouvelles prisons, ça augmente la population carcérale, quoi. Ça va pas la laisser stagner. Juste les prisonniers ont plus de place. Enfin, c'est vraiment un truc qui a été étudié et qui est prouvé.
Et aussi, ouais. En fait, ce qui est bizarre avec cette prison, c'est que on n'a pas accès au contrat. C'est super dur d'avoir accès au contrat entre la régie des bâtiments, donc l'État, et CAFASO, donc les entreprises. Et que tu ailles voir l'un ou l'autre, ils te renvoient tous vers l'autre. Et donc, tu n'as pas d'accès. Mmh. Et il y a un politique qui a voulu faire sa pub et qui a été consulter le contrat, machin. Et le gars a dit, ben oui, tous les chiffres sont barrés, on ne les voit pas, quoi. Donc là, il y a un truc aussi, enfin, de transparence, c'est la merde. C'est quoi ce bail hyper chelou, quoi. Et tout le monde dit, non, c'est pas moi. Non, allez demander, c'est eux qui ont les infos. Non, c'est eux qui ont les infos et tu les trouves jamais, en fait.
Si peut-être on peut clôturer avec genre deux questions. Déjà, qu'est-ce qui a pu être imaginé à la place de cette prison? Et aussi, qu'est-ce que ça a créé comme... comme relation, comme truc cool ensuite cette lutte quoi contre cette prison.
Ce qui a été imaginé, déjà il y a eu la ZAD quoi, enfin il y a eu plusieurs occupes où je pense qu'il y avait plein de projets différents qui naissaient et aussi fort en lien avec le quartier quoi qui venait hyper souvent, qui faisait plein de trucs et puis il y a eu des personnes qui ont voulu proposer des projets de ferme de réinsertion et tout avec lesquels on n'est pas, en tout cas la CLAC, donc le collectif qui s'est constitué sur base des dernières actions contre la maxi-prison de Haren, je pense pas que ça nous parle vraiment de faire une ferme de réinsertion. Pour moi ça sonne comme prison encore un peu plus humaine quoi. Mais ce terrain, là maintenant c'est dur d'y imaginer quelque chose d'autre, mais il y avait moyen de faire vraiment plein des trucs dessus. Et comme alternative à la prison, je pense qu'il n'y a pas de solution toute faite, mais qu'il faut être créatif et qu'il faut pouvoir en fait se baser sur le fond des problèmes et pas les symptômes. Ah, t'as volé, on va te mettre en prison, enfin ça c'est un symptôme quoi. Enfin, on dit on renforce un lien social, mais en fait, on renforce ton lien au fait que tu as envie de travailler quand tu sors de tôle, parce que c'est comme ça que tu vas te réinsérer, mais on t'empêche de voir ta famille, tes enfants, tes proches. Pour moi, il y a un truc de... la prison physiquement, en faire un autre lieu, il y a moyen de faire plein de trucs, mais le système pénal, comment il fonctionne aujourd'hui, il y a aussi moyen de faire plein de trucs et toutes les alternatives qui existent aujourd'hui, elles sont toujours liées à l'existence de la prison et dépendantes de son existence. Et que pour moi, c'est pour ça qu'il faut abolir la prison, pour pouvoir vraiment penser les alternatives et les vivre pas comme j'ai pas envie d'aller en prison, alors je vais faire du travail, je vais nourrir des cochons dans une ferme.
Ouais, comme le moins pire.
Ouais, c'est ça, comme le moins pire. Et c'est ça que c'est présenté et pas comme en fait, qu'est-ce qu'on peut construire avec toi qui a eu un problème par rapport à ta victime, à qui t'as causé problème, qu'est-ce qu'on peut faire quoi.
Le collectif de la CLAC s'est formé par cette lutte.
Ouais, notamment par un blocage qu'on a fait en février passé, suite au fait que on avait appris qu'ils accéléraient les travaux machin, et on s'est dit il faut faire un truc par rapport à ce chantier et en parler quoi. Donc là on a organisé un blocage et avec le groupe qui organisait, on a commencé à vouloir, on voulait axé sur le carcéral et continuer à lutter contre les autres prisons quoi. Et qu'il y avait plein de gens qui nous disaient pourquoi vous allez là, c'est vraiment une lutte perdue et tout machin, et on était là en fait non, il y a plein d'objectifs au fait de remontrer que ça existe dans le centre de Bruxelles, qu'il faut continuer d'agir, d'empêcher d'autres constructions, parce que la construction de cette maxi prison elle fait partie d'un master plan, un truc politique qui prévoit l'extension, la rénovation et la construction de blindés de prisons en Belgique. Et qu'en fait, il faut pouvoir dire, il faut qu'on lutte contre la construction des prisons. C'est un endroit où on peut faire parler la problématique carcérale hyper fort, quoi. Et du coup, ça c'est assez cool parce que... Enfin, même si la prison elle se construit, y a des solidarités de ouf qui se construisent pour le moment, et il y a des groupes militants qui se bougent et qui veulent rentrer en contact avec des détenus, des proches des détenus, qui refusent le système pénal, qui veulent réfléchir à ça, qui veulent faire des actions, qui veulent que ça bouge, quoi. Et là, du coup, c'est vraiment un truc perso sur comment moi j'ai vécu la ZAD au moment où, en fait, on était 3 ou parfois 4 militants et militantes à vivre dessus. Et les autres, c'était des personnes qui nécessitaient un logement et qui vivaient là pour pouvoir vivre quelque part, quoi. Et donc, il y avait aussi cette expérimentation de la violence qui a été pour moi hyper, hyper fort en lien avec ma lutte anticarcérale parce que. En fait, oui, je me sens incapable. On m'a rendu et je sais que je suis construite comme incapable de réagir à de la violence. Et ça, c'était super intéressant d'expérimenter ça, d'être avec des personnes qui sont violentes, qui commettent des faits hyper violents et d'essayer de dealer avec ça. Et de voir que l'anticarcéral, c'était pas un monde de bisounours, quoi. Et qu'il y avait du taf et du temps à faire, enfin, du temps à prendre et des trucs à faire. On n'a jamais appelé la police, mais c'était chaud, des gens nous le reprochaient, des gens nous disaient si tu t'appelles pas les keufs, quelqu'un va crever ici, machin. Ouais. Et que ça a été. En tout cas, pour moi, ça a été une des utilités de la ZAD, c'est d'être confronté à des réalités qui sont des réalités dignes d'être envoyées en prison, enfin, qui auraient pu être. Ouais. C'est des gens qui ont fait de la toule, qui auraient pu y être. Quoi. Ça a été fort, fort important dans mon appréhension de la lutte et de voir que, en effet, je souhaitais pas à ces personnes violentes d'être en prison, ouais. Que ça leur aurait fait préjudiciable.